Aujourd'hui, la masterclass d'Atik Raimi avec Delphine Schaum.
Alors maintenant, c'est au tour d'Atik Raimi de se livrer à cet exercice de la masterclass et de nous livrer tous vos secrets d'écrivain, et pas uniquement d'écrivain, puisque vous êtes aussi cinéaste, enfin vous êtes plein de choses, et on abordera aussi dans cette masterclass les calimorphies, ce que vous appelez les calimorphies, qui sont représentatives peut-être de votre discipline artistique et de votre démarche artistique, parce que c'est vraiment entre l'écrit et l'image peut-être. Hein. Donc, Atik Raimi, vous avez dit que vous êtes né à Kaboul et puis vous avez demandé l'asile en France. Vous avez écrit que vous êtes né en Inde, incarné en Afghanistan et réincarné en France. Donc c'est un parcours.
Trois vies.
Trois vies, des passages. Ce qui vous caractérise aussi peut-être, c'est cette question du passage, de la frontière et puis du corps, de l'incarnation. Voilà. Atik Raimi, donc est-ce qu'on peut parler pour vous de vocation? Alors vous avez commencé à écrire assez jeune, donc dans des revues de littérature et de cinéma, et vous avez été très tôt confronté à la censure. Est-ce que cette rencontre avec la censure a déterminé certains de vos choix?
Ah, oh là. Oui, alors comme moi, cette vocation d'écrivain, ce besoin, c'était avoir faim de dire quelque chose, avoir faim d'écrire. Autrement dit, c'est-à-dire avoir faim, c'est une question viscérale, biologique. Ce n'est même pas intellectuel. Pour moi, c'est quelque chose de très charnel, sur mon rapport avec l'écriture. Deuxième chose, après ce besoin vital, ce besoin viscéral, vient l'envie, qui est de l'ordre de désir. Et encore, on n'est pas à l'état intellectuel, c'est encore autre chose, encore plus viscéral, encore plus intime. Donc, c'est ça pour moi, c'était cette envie. Mais, forcément, lorsqu'on vit dans un pays comme Afghanistan, où il y a beaucoup de tabous, en dehors de la censure politique imposée par l'État, etc., mais dans un pays comme Afghanistan, il y a une censure qui vient de très, très, très loin. Hein? Il y a un grand maître penseur, Shams, qui était le maître de Rumi, dont je le connais, mais Shams, malheureusement, on ne le connaît pas très bien qu'à travers Maulana. Lui, 13e siècle, disait une chose extraordinaire. Je lis d'abord en persan, rien que pour la beauté de la langue. C'est mon origine, hein, je ne peux pas m'en échapper. Il dit « Mohra ahliyat goft nist ». کاشک اهلیت شنودن بوده تمام گفتن می باید و تمام شنودن اما بر دلها مهر است بر زبانها مهر است بر گوشها مهر است la traduction c'était pas sous-titré ce qui veut dire que nous ne sommes pas aptes de dire tout si seulement on pouvait écouter mais malheureusement nos oreilles sont scellées, nos lèvres sont scellées, et le pire, le corps, nos corps sont scellés. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on peut très très bien donner toute la liberté de dire aux gens, ou la liberté d'écouter les choses. Mais si le corps, l'intérieur n'est pas ouvert, ça ne sert à rien cette liberté. Et dans un pays comme nôtre, c'est ça ce qui est important. C'est trouver d'abord cette liberté à l'intérieur de soi pour l'imposer à l'extérieur. Et ça commence ensuite la complication de censure géopolitique, etc. Mais malheureusement, nous, quoi que l'on fasse, même nos intellectuels, les écrivains qui vivent en Occident, hein, en pleine liberté, il y a au fond d'eux-mêmes une sorte d'autocensure. Ce n'est pas pour rien que toute notre littérature est fondée sur la poésie, parce que c'est grâce à la poésie qu'on arrive à s'échapper de toutes sortes de censures. Pourquoi ? Parce qu'on parle avec des métaphores, des symboles. On ne dit pas des choses directement. D'où l'absence de la tradition romanesque chez nous.
Oui, parce que vous dites, Atik Raimi, dans La Ballade du Calam, que vous avez commencé par la calligraphie, qui a été une souffrance, puis vous êtes passé à la peinture, et ensuite à ce que vous venez d'écrire, donc la poésie. Et donc ce cheminement-là, vous auriez pu en rester à la poésie, mais non, en fait, la poésie n'était qu'une étape au même titre, finalement, que les deux étapes précédentes.
Exactement. J'ai commencé avec le dessin, surtout de la calligraphie au début, parce que c'était quelque chose imposé dans nos écoles. Donc on nous imposait ça, et surtout les textes sacrés. Et moi, très jeune, je ne sais pas, j'étais un peu fâché contre le ciel. Donc je voulais avoir quelque chose de tête de terrestre, d'ici, de la chair. Et je voyais que tout ça, et la poésie aussi m'éloignait. Alors que la première fois, mon premier écrit était un poème. Ensuite, j'ai continué. J'ai pas mal écrit de poèmes à cette époque. Mais le moment où j'ai fait un voyage en Inde, quand j'avais 16 ans, il y a eu une sorte de rupture avec cette poésie, dirais-je, plutôt stérile pour moi. Il me fallait une autre voie pour me libérer, pour dire des choses, nommer des choses. Dans la poésie, on embellit des choses par des métaphores. On s'éloigne de la chose. Alors que dans le roman, on nomme les choses telles qu'elles sont. Donc, j'avais besoin de ce cri-là, de ces mots-là, de nommer des choses. C'était cette envie de me libérer, de libérer mes mots qui m'a orienté vers l'écriture romanesque. Par contre, à ce moment-là, quand j'ai eu cette conscience à l'égard du langage, à l'égard de l'écriture romanesque, j'ai pris le chemin de l'exil. Une deuxième fois, je suis venu en France. À l'époque, je parlais encore pire qu'aujourd'hui, le français, donc je ne pouvais pas écrire. Et je devais trouver mon langage, un autre langage. Donc c'était le langage visuel. Et le cinéma, c'était justement un moyen pour m'exprimer. C'est pourquoi je me suis orienté vers le cinéma au début. Et le paradoxe, c'est la littérature qui m'a fait connaître que le cinéma. Vous
voyez ? Alors, Atik Raimi, donc on va parler là pour l'instant de vous, écrivain. Et comment vous choisissez, enfin, vous êtes choisi par votre sujet ? Est-ce qu'il naît d'une image ? Est-ce qu'il naît de cette conscience du corps ? Dont vous parliez, puisque vous avez mis en épigraphe de Saint-Guy-Sabour une citation d'Antonin Artaud sur le corps. Donc je la cite: du corps par le corps, avec le corps, depuis le corps et jusqu'au corps, sachant qu'en persan, je crois que c'est le même mot qui désigne corps et âme. Est-ce que donc ça vient d'une image, d'une sensation ou de quelque chose d'encore plus intime, comme vous le disiez tout à l'heure?
Oui, il y a quelque chose d'intime, très intime, qui nous pousse vers un cri, comme les enfants qu'ils ont, soit ils ont faim, soit ils ont envie de quelque chose. Ils n'ont pas de mots, donc ils crient, ils pleurent. Et nous, je crois qu'on a, quand on est adulte, à un moment donné, on a envie, on est touché par quelque chose. Et là, à ce moment-là, on a envie de nommer ce sentiment.
Et donc, Atikraimi, c'est un sentiment que vous souhaitez explorer quand vous commencez une œuvre. Un sentiment.
Il y a quelque
précis.
Chose qui bouille en moi, et je ne sais pas encore. Et c'est l'écriture, justement, qui m'amène qui, sur le chemin pour me dire, voilà ce que tu veux, d'une certaine manière. Oui, là, par exemple, je parle, puisqu'on est dans un genre d'atelier, donc... Je vous raconte par exemple l'aventure de l'écriture de mon avant-dernier livre, aussi traduit en allemand, qui s'appelle Moudissoi Dostoïevski. Cette idée, l'idée d'un homme, d'un garçon, un criminel, qui veut être jugé, et personne ne veut le juger, m'est apparue justement, sortie comme ça, s'est emparée de moi. Quand, après 18 ans d'exil, je suis retourné au pays, en Afghanistan. Et quand je voyais tous ces jeunes avec leurs armes et cette violence, tous ces communistes, tous ces islamistes, etc., qui avaient du sang sur les mains, mais qui se promenaient tout joyeux dans les rues de Kaboul, fiers, et je me posais la question... Comment il ne se remettait jamais en question? Pourquoi il ne ressentait pas un sentiment de culpabilité? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. C'était cette question qui m'a poussé à réfléchir sur le sentiment de culpabilité. Alors, quelle forme? Comment ce personnage s'introduit en vous, ça c'est quelque chose complètement étrange, en effet. On ne sait pas. Un jour, un soir, on est dans son bureau, devant son ordinateur, il y a un personnage qui vous dit bonjour. Il dit bonjour. Voilà. Et vous commencez à discuter avec lui, bien sûr. Et vous essayez de le comprendre. Je me rappelle... À un moment donné, en Afghanistan, il y avait un visage. Il y avait 3-4 jeunes qui s'embrassaient, se saluaient avec des armes à l'épaule. Et tout joyeux. Et là, je dis, l'un de ces gens-là, dans un de ces jeunes, forcément a tué quelqu'un. Mmh. Il est où? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là quand il rit? Et ce personnage, avec son regard assez particulier, qui est venu chez moi rendre visite un soir. Et j'essayais de le comprendre. J'écris. Et j'ai mis comme ça, il commet un crime, etc. Et ensuite, j'écris jusqu'à ce que je finisse le roman. Et avant de l'envoyer à mon éditeur, je voulais relire, bien sûr, encore pour une dixième fois, et dernière fois, comme on se dit. Mais, et là, j'étais aperçu que pendant 50 premières pages, mon personnage ne parle pas. Et là, je me dis, mais comment ça se fait? Comment je lis? Vous voyez, j'ai vécu quand même 3 ans, 4 ans avec ce personnage, avec ce livre. Et jamais je m'étais rendu compte que ce personnage... ne parlait pas pendant 50 premières pages. Pourquoi? Et là, pour ça, j'ai appelé une amie, une psychanalyste. Il dit, voilà, il y a un personnage qui refuse de parler. Et j'ai amené mon personnage chez le psychanalyste, chez cette dame psychanalyste, discuter avec elle. Et déjà, c'est quand je l'ai appelé, je dis, voilà, un personnage qui refuse de s'exprimer. Amène-le. Quand je suis allé tout seul, elle était un peu choquée, secouée. Mais je dis, le personnage est dans mon, la personne est dans mon sac. Donc, elle dit que c'est un très bon cas, lui. Donc, et là, après, c'est comme ça que j'ai compris de quoi il souffrait exactement. Oui, c'est ça. C'est très difficile de se connaître Alors comment connaître l'autre? Comment connaître un personnage? Je ne crois pas que dès qu'on arrive à commencer à l'écriture, tout de suite on dit mon personnage fait ça, il est comme ça, il connaît comme ça. Ça veut dire ça, ce n'est pas un personnage pour moi. Justement, ce personnage, le moment où s'échappe à vos mains, et c'est à ce moment-là qu'il existe. Parce que ça, il devient une personnalité, un être humain. Avant ça, c'est juste un type, quelque chose, un caractère fonctionnel. Et il y en a des personnages comme ça dans la littérature, un peu partout. Mais ensuite, quand on arrive à ce, c'est-à-dire que le personnage vous échappe, que vous essayez en écrivant de comprendre votre... Et c'est là, pour moi, que l'écriture romanesque commence. Donc, c'est un terrain assez compliqué, intime et dangereux.
Mais vous avez été très loin de ce point de vue-là, Atik Raimi, puisque dans Cinq et Sabour, c'est votre personnage est une femme. Vous êtes laissé habiter, vous avez discuté avec un personnage féminin et vous avez vous êtes allé très loin dans l'exploration de ce personnage féminin.
Mais au fond, non, je ne me suis jamais introduit dans la peau d'une femme, c'est impossible. Et c'est plutôt cette femme qui est venue, encore une fois, s'habiter en moi. Il y a tant de choses, que même quand je me lis, et si je me lis aujourd'hui, je n'arrive pas à me comprendre, je ne comprends pas mon personnage. C'est vrai, je crois, l'une des choses qui m'a poussé de faire le film, Père de patience, c'était pour comprendre mon personnage autrement.
Voilà, parce que vous avez adapté le roman.
Le roman, et cela... À travers à une actrice, à travers justement à tout ce questionnement autour de ce personnage, de construire ce personnage avec l'actrice, avec mon équipe, que commençait à toucher un peu mon personnage. Mais avant, pour moi, c'était de l'ordre un peu plus encore abstrait. Hein, c'est... Il y a une anecdote magnifique à propos de Perandello, qui est une actrice, vient le voir et dit « Maître, je dois jouer votre pièce, mais je ne comprends pas pourquoi ce personnage fait ça, fait ceci, et dit ça, etc. etc. » Perandello dit « Écoutez, je ne sais pas, je ne suis qu'un écrivain. » C'est vrai, il y a quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et par contre, quand on fait un film, c'est autre chose le rapport avec le personnage. Parce qu'il faut tout expliquer.
Et en même temps, vous avez dit à Atik Raimi à propos donc, de cette adaptation cinématographique que, d'une certaine manière, vous vouliez filmer la parole. Ça semble impossible, a priori.
Oui. C'est encore, ce sont des choses qu'on se dit, on se dit au début, mais ensuite, après, on se pose mille et une questions sur ça. Alors, pourquoi filmer la parole? Parce que dans ce film, c'est l'histoire d'une femme qui parle. C'est un livre sur la... Avant d'être un livre sur les femmes, c'est un livre sur la parole. Faire un film sur la condition féminine afghane, ok, soit, on a déjà vu... C'est pas ça qui me... Parce que, encore une fois, je ne suis ni sociologue, ni féministe, ni sexologue, ni sexiste. Je comprends rien, c'est vrai. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est raconter une histoire et l'importance de la parole. Et je crois que, ensuite, on se pose la question, oui, si l'Afghanistan tombe dans une telle violence... à l'égard des femmes, mais aussi à l'égard de tous, c'est parce que la parole n'est pas libérée. Donc, faire un film sur la parole, c'était ça. Et filmer la parole, c'est... Et là, ensuite, une question technique, parce que je demandais à mon chef opérateur, au caméraman, de ne pas bouger avec le mouvement de l'actrice, de l'acteur, mais avec les mots. Qu'elle prononce. Donc, ça compliquait bien sûr les choses. Donc, je disais, voilà, à tel mot, il faut que tu pousses ta caméra vers avant ou vers arrière, qu'on découvre ça, etc. Donc, c'était des mots qui, la parole de cette femme qui donnait la direction technique et artistique du film.
Et pour cette adaptation, vous avez donc collaboré avec un scénariste, hein, c'est ça, pour vous avez coécrit en fait le film.
Oui, je l'ai pas le film, le scénario.
Le scénario.
Oui, le scénario du film, oui, c'était avec Jean-Claude Carrière, le grand maître, bien avant que le livre soit disponible dans les librairies, etc. Il m'avait dit ceci que Atik, bravo. Tu as fait un bon travail, mais pense au film parce que ça peut donner un très bon film. Oui, le film m'a permis beaucoup de choses. D'abord, de tourner le film dans ma langue maternelle. Parce que j'ai écrit le livre en français et les Afghans ne pouvaient pas lire mon livre. Ensuite, il y a eu traduction en Iran et aussi en Afghanistan, de très très mal traduction. Et moi-même, je ne pouvais pas me traduire parce que j'allais écrire un autre livre. Il me fallait justement un autre support, une autre piste. Et c'était le cinéma qui m'a permis de traduire mon roman, de traduire cette histoire en persan. D'abord, c'était ça. Deuxième chose, c'est que vous savez, malheureusement, dans un pays comme l'Afghanistan, où il y a 90% d'analphabètes, ils ne pouvaient pas lire mes livres, même si j'écrivais en persan. J'écris avant Père de patience 3 livres en persan, alors que le film justement a permis à beaucoup beaucoup d'Afghans, à des femmes analphabètes et tout ça, de voir et de connaître cette histoire. Donc voilà une autre raison de faire le film.
Oui, une raison importante.
Pour moi, oui.
La diffusion de vos œuvres, quand même, en tout cas sous ce support-là, dans votre pays.
Voilà, justement, notamment cette histoire et ce livre. Je voulais qu'il soit lu là-bas. Oui.
Dans cette question, la collaboration, donc de la coécriture du scénario. Il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la trahison, comme dans la traduction, mais c'est quelque chose qui peut être bénéfique ou positif, selon vous, Atik Raïmi.
Ah oui, je crois que faire exactement pareil tel qu'il est dans le livre, ça serait une trahison, oui. Peut-être pas une trahison à mon propre égard, mais à l'égard de mon public, à l'égard de mes lecteurs et aux Afghans aussi. Pourquoi? Les choses que j'avais à dire, je les ai écrites. Le répéter cinéma, alors, ça n'avait aucun sens, mais il fallait que j'aille au-delà de ça. Et d'abord, deuxième chose, c'est que chaque médium révèle une dimension particulière d'un événement, d'une histoire, d'un objet que notre art ne peut pas. Le cinéma dit autre chose, montre une autre réalité de cette histoire. Et c'est vrai, grâce à cette écriture scénaristique avec Jean-Claude Carrière, et puis le moment de tournage, j'ai découvert d'autres dimensions de cette histoire, de mon personnage. Donc, c'est devenu plus charnel que dans le livre, par exemple. Le corps prend plus d'importance que dans le livre, etc. Donc, la trahison, c'est une sorte de mise en distance. Et ce que je fais même avec les autres, quand les traducteurs, les traductrices m'appellent pour me dire, voilà, comment ça se dit, écoutez, soyez libre, il faut l'adapter, il faut découvrir autre dimension dans votre propre langue, ou dans les adaptations théâtrales, etc. J'ai reçu beaucoup de propositions, et tout ça, c'est pour faire une adaptation cinématographique ou théâtrale, et à chaque fois, ils essayaient de me convaincre qu'ils restaient très fidèles au livre. Et moi, je dis, non, c'est une fausse piste. Alors, je n'ai pas accepté, juste parce qu'ils voulaient être trop fidèles. J'ai dit, écoute, vous n'êtes pas obligé de répéter ce que j'ai dit. Peut-être que j'ai dit une bêtise. aller chercher autre chose dans cette histoire, me corriger mon personnage, peu importe. Il fallait donner une autre vie à ce personnage, ne pas répéter. Donc, ce que je fais ensuite aussi, là, en ce moment, j'adapte un livre d'Amin Malouf au cinéma. Quand je l'ai rencontré, j'ai dit, bah, écoutez, voilà, je vais vous trahir. Je vais mettre dans le film ce que vos mots cachent, ce que le blanc entre les mots cache, ce que vos personnages cachent et ce que vous cachez. Ça, j'aime bien révéler ça. Et ce que j'attends aussi des autres, quand s'ils veulent adapter, qu'ils me révèlent des choses que moi, je ne sais pas, je ne vois pas.
Alors, Atik Raimi, après cette adaptation cinématographique, vous êtes revenu sans mal à l'écriture, parce que c'est une sorte de voyage et de passage, donc de l'écrit à l'image, de l'image à l'écrit. Est-ce que ce nouveau passage s'est fait sans difficulté?
C'est pas le passage qui est difficile, mais toujours se lancer dans un projet, c'est ça qui est plus difficile. D'abord, se pose mille et une questions. Pourquoi? Encore, on revient à la cuisine, donc avoir faim. Il faut que j'ai faim. Mmh. Voilà. Et c'est pas pour rien, comme maintenant quand je parle. Le premier mot de mon premier livre, c'est ça, j'ai faim. Mmh. Oui, en effet, il faut avoir faim. Donc, c'est d'abord ça. Ensuite, évidemment, il y a chaque chose a ses complications, mais j'ai besoin des deux, voire de trois, même de calligraphie, et même de la cuisine, et même de la musique pour écrire ou pour faire du film.
Pendant que vous êtes dans le processus ou avant?
Oui. Pendant le processus. Ouais. Mmh. Par exemple, parlant de calligraphie, c'est ce qui est entre dessin et calligraphie. Personne. Par exemple, là, quand j'écris et que je n'arrive pas à trouver mes mots, je n'arrive pas à construire une phrase, que mon personnage m'échappe, etc., ça m'énerve, il y a quelque chose qui est bloqué, etc. Je prends le calam, enfin, c'est la plume, et je dessine et j'écris. C'est une sorte de prière pour moi, prier les mots pour venir, embellir les mots, c'est une sorte de supplier les mots de venir vers moi. Voilà, c'est ça. Ensuite, passer au cinéma, c'est autre chose. L'écriture ne demande qu'une chose, c'est l'isolement total, la solitude totale.
Total.
Ah oui.
Donc quand vous avez commencé, que vous avez eu donc votre personnage, là, il faut que vous isolez.
Il faut que je sois seul. Peu importe que même je suis là dans un café, mais il faut que je sois seul. Dans une solitude intérieure, coupée du monde. Et surtout, oublier le temps. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Si on écrit avec le temps, ça ne va pas pour moi. Peut-être les autres, c'est autrement. Mais je crois que, même chez les grands écrivains comme Proust, s'ils n'avaient pas oublié le temps, s'ils n'étaient pas cloués au lit tout le temps, oublier le temps, c'est le matin, le soir, le midi, etc., ils n'auraient jamais écrit à la recherche de temps perdu. Déjà, le nom dit beaucoup de choses sur ça. En effet, il faut perdre le temps. Cette notion, il ne faut pas vivre dans le temps. Ça, c'est quelque chose de primordial. Ensuite vient l'espace, etc. Donc, ça, au cinéma, au contraire, c'est le temps qui vous guide. Et ensuite, vous n'avez pas droit de solitude au cinéma. Mm. Vous êtes avec vos acteurs, avec l'équipe, et petit à petit, on construit son royaume. On devient un petit enfant, gâteux, capricieux. On crie, on insulte, on déverse toutes ces colères sur les autres. Voilà. Et c'est l'ego. Avec ou sans apostrophe. qui se lève devant vous. Ah, et on est là comme avec des pièces, on est monde, etc. Et si on a un doute, on crie. Si on a une incertitude, on demande aux autres, etc. Mais à l'écriture, alors là, il n'y a rien de tout ça. Pour trouver un mot, on pleure. Il n'y a personne avec qui vous pouvez partager vos doutes et vos incertitudes. Il n'y a que votre personnage. Et en plus, il vous échappe.
Et alors, Atik Raimi, est-ce qu'il y arrive des moments où... vous nous avez raconté, là, quand vous étiez... Enfin, c'est pas tellement que vous étiez bloqué, d'ailleurs, vous étiez étonné avec votre personnage qui ne parlait pas. Mais est-ce que ça peut vous arriver d'être... bloqué, interdit devant une difficulté par rapport à votre texte, ce qui peut être différent de ce que vous expliquez dans la balade du calame où là vous avez cette faim et ce désir, mais finalement l'objet, donc l'exil, ne peut pas forcément s'écrire puisque c'est tout l'enjeu de votre livre La balade du calame, c'est de montrer ça. Et donc là, c'est pas que vous êtes bloqué dans cette configuration là.
Non, justement, c'est pourquoi j'écris la balade du calame. Dès le début, j'ai dit, parce que j'étais incapable d'écrire un livre que la maison d'édition avait commandé, c'était une ordre de commande, sur l'exil. J'écris des pages et des pages et des pages, des centaines de pages, mais le livre n'était toujours pas là, je ne voyais pas. Et c'est là que j'avais décidé de laisser tomber cette entreprise d'écrire un beau livre sur l'exil, avec des dessins, avec de la peinture, des photos, etc. C'est un travail encyclopédique dont je me sens incapable d'écrire, mais c'était autre chose. Donc, et là, j'étais aperçu que non, l'exil, c'est une expérience. Comme la naissance, comme la mort, on peut beaucoup gloser, mais on ne peut pas le toucher. Il faut les vivre, c'est tout. L'exil, Ovid a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que l'exil, c'est laisser son corps derrière soi. Alors qu'on a l'impression que l'exil... C'est justement sauver son corps, non. L'exil, on sauve son esprit, mais pas son corps. Le corps reste toujours là où il était. Et ensuite, on est dans une recherche permanente à retrouver ce corps délaissé, perdu, seul, sur la terre d'origine. C'est ça. Donc, c'est une expérience très, très particulière. C'est vrai que ce livre m'a appris de ça. Au début, je voulais à chaque fois qu'on me demandait mon opinion sur l'exil, donc je parlais avec mille et une choses, avec beaucoup de mots. En fin de compte, j'étais aperçu que pour dire rien. Non. Et c'est autre chose, en effet. C'est une déchirure, mais pas dans le sens très négatif de terme. Au contraire, c'est une renaissance. C'est pourquoi je compare ça avec la naissance ou la renaissance. Il y a encore, je reviens à ce poème magnifique et à ce grand poète, Rumi, qui a écrit un livre extraordinaire, Masnavi, qui commence avec ces vers, là. Écoute le naï. Le naï, c'est ce plume à base de roseau. Qu'on est pour le calligraphier, mais aussi le naï, cet instrument de musique. Hein, ça, c'est le roseau qu'on utilise. Et Rumi, il dit, écoute le naï, l'instrument de musique, qui ne parle que de sa séparation de la roseraie. Presque la même idée existe chez Rimbaud. Quand, vous voyez, tout le monde connaît ça, « je est un autre ». Mais malheureusement, on oublie ce que suit cette phrase Et c'est ça qui est plus important pour moi, plus important que je est un autre. Il dit, tant pis pour le bois de devenir violent. En effet, pour devenir autre chose, pour devenir violent, un instrument de musique qui nous enchante, il faut être coupé du bois. De la même manière, le naï, pour devenir un instrument d'écriture, un instrument de musique, il faut qu'il soit coupé de sa terre d'origine. L'exil est aussi cela, c'est-à-dire se couper pour devenir autre chose. Sinon, il n'y a aucun intérêt.
Si on revient à Tik Raimi, à ce qui est le plus difficile, donc là, quand l'œuvre peut s'écrire, ce qui vous est le plus difficile, est-ce que c'est... on a compris comment une œuvre démarrait, enfin comment vous la faisiez démarrer, mais alors après, c'est-à-dire vous écrivez, et qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est de concilier justement toutes les langues qui vous habitent? Est-ce que c'est de concilier le mot, l'image? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous?
Oui, la première chose, de trouver des mots, de les poser sur ses sentiments. Voilà, les mots. Au début, j'écris énormément, en effet. J'écris. Sans me donner de limites. Dès j'écris, jusqu'à ce que j'arrive à trouver mes mots, j'écris jusqu'à ce que j'arrive à trouver l'histoire, la structure de l'histoire, jusqu'à ce que j'arrive à mettre mon personnage, je m'excuse de cette expression, de mettre mon personnage dans la merde. Ben, c'est ça, en fin de compte... S'il n'y a pas ça, si on ne met pas le personnage dans une difficulté, le personnage ne sait pas quoi faire. Donc, il faut qu'il y ait... Donc, je pose ce personnage dedans. Ensuite, j'essaie de trouver comment le sortir. Et c'est ça. Donc, je ne me donne aucune limite. Donc, le temps n'existe pas, rien. Tout ce qui compte... c'est de trouver des mots pour les poser. Et à un moment donné, je vois qu'il y a trop de mots. Après, ça, pour jusque-là, c'est pour moi, c'est encore une matière. Ce n'est pas une forme. Donc, à partir de ce moment, quand l'histoire est là, le personnage est là, des pages 300, 400, peu importe, sont là, à partir de là que je commence... L'écriture, en effet, j'écris. Et comme disait ce grand poète israélien, disait, je rêve toujours, mon rêve c'est de réduire un chapitre en une page en un paragraphe en une phrase en un mot en un point. Ça, c'est génial. En effet, c'est ça. C'est comme un sculpteur. On a une grosse masse de pierre devant soi. Il faut nettoyer. C'est pas ça. C'est ça pour moi, en ce qui me concerne, l'écriture, c'est ça. Donc, arriver de ces 300 pages à un livre de 100 pages.
Mais vous réécrivez tout ou vous riez?
J'écris tout.
Vous réécrivez tout à ce moment-là?
Oui. Ah oui, je reprends à chaque fois. Ah, je reprends à chaque fois. C'est pourquoi je mets beaucoup de temps à finir un livre. C'est toujours minimum 3 ans. Au début, j'écris l'histoire, comme je viens vous dire. Ensuite, je laisse de côté pendant un certain temps, 6 mois, 3 mois, voire 1 an. Ensuite, je le reprends. Durant cette période, soit je fais un film, soit je fais mes recherches sur les choses qui me touchent dans le livre, dans le personnage.
D'accord, donc des recherches qui sont en lien avec...
Ah oui, je lis ensuite.
Et quoi comme type de recherche? Mais des recherches documentaires
Documentaires, je lis d'autres romans qui m'inspirent, je voyage, par exemple, là, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir l'année prochaine, donc une partie, ça se passe à Amsterdam, donc il fallait que je sois là-bas, de voyager là-bas à Amsterdam pour voir ce que j'avais écrit, ce que j'avais imaginé.
De confronter...
Voilà. Et là, je vais voir à quel point j'avais raison ou non, à quel point le personnage avait raison. Donc, ensuite, je reviens, puis je retravaille une deuxième version. Et après, commence le vrai travail qui est justement épurer pour venir à un mot.
Mais Atik Raimi, justement, c'est la grande question, parce que pour ne pas parvenir uniquement à un mot ou un point, quand est-ce que vous savez qu'il faut vous arrêter d'épurer? Et puis c'est une question que vous connaissez bien, puisque c'est ce sur quoi vous avez travaillé, je crois, lors de votre thèse de cinéma, sur la question de la fin. La fin des œuvres. Alors, bon, quand est-ce que vous dites, bon là, il faut arrêter, sinon ça va vraiment devenir un point?
Bah écoutez, moi j'ai toujours en français, il y a un mot transitif qui est achevé, mais pas inachevé. Je crois que dans beaucoup de langues, ça n'existe pas. Le verbe transitif inachevé, c'est toujours en participe passé ou etc. Et moi, je dis toujours j'inachève mon livre. Et c'est pourquoi toujours dans tous mes livres, la fin reste très ambiguë. Et ça, c'est exprès. En effet, peut-être parce que je viens d'une culture, de la culture de Mille et une Nuits. C'est une manière de me donner ce luxe de dire, il me faut encore une nuit pour écrire. Une nuit pour survivre. C'est un King qui, dans Misery, il dit une phrase extraordinaire. Il dit, j'écris deux sortes de livres. L'un pour l'un pour survivre et l'autre pour ne pas perdre la vie. En effet. Et oui, non, je m'excuse. Certains temps, j'écris des livres pour gagner ma vie, d'autres pour ne pas la perdre. Voilà, ouf. Phrase importante pour moi. En effet. Et moi, je crois que je suis plutôt dans ce stade-là. C'est ne pas perdre la vie, oui. C'est un moyen inachevé pour moi. C'est un moyen d'aller... de dire que voilà, je ne suis nulle part, je ne suis pas arrivé là où je voulais, il me faut encore du temps, encore de l'écriture, encore de vie, encore de l'amour. Voilà.
Et est-ce que dans ce processus d'inachèvement, a dit Kraimi, il y a des personnes, des lecteurs ou des regards extérieurs qui vous aident, vous orientent, tout du moins vous donnent leur avis sur l'étape ou le moment où vous en êtes dans l'œuvre?
Ça, c'est justement la période la plus difficile. Justement, quand on essaie de donner son livre, son manuscrit à quelqu'un de lire, c'est comme on prépare un plat et puis on donne à quelqu'un d'autre, il l'aime ou n'aime pas. Ça, c'est autre chose. Bien sûr, c'est mon éditeur. Ensuite, dès que j'ai ces impressions, ces mots, ces remarques, avant de toucher à la réécriture ou dire ok, ça c'est, il a raison, il faut que je change ça ou non, j'essaie de demander à quelqu'un de me lire à haute voix. Ouais. Et ça aussi, c'est un moment très décisif. Et je prends mon temps et je donne aussi le temps à la personne. C'est toujours avec mes amis comédiens, comédiennes. Par exemple, Sang et Sabour, c'est Marianne Denicourt, et donc, qui m'a lu à haute voix. À deux, on s'est enfermés juste pour deux jours pour qu'elle me lise. Le deuxième l'autre maudit soit Dostoevsky, c'était avec Denis Podalides, qui m'a fait cette agréable lecture. Parce que ça, pour moi, c'était assez important, justement, la sonorité des mots, le rythme. Je viens d'une culture où l'oralité l'emporte sur l'écriture. Donc, c'est important aussi. Et j'aime bien ça aussi, la musicalité. La musique est très importante pour moi, je crois pour tout le monde, parce que ça concerne le livre, et notamment quand on fait de la littérature. Donc, je ne sais pas si je fais de la littérature, mais en tout cas, oui, ça m'importe énormément. Et à partir de là, évidemment, je retravaille, je vois à quel moment tel mot n'a pas sa place, n'est pas dans le rythme de livre, etc. C'est vrai que ce sont des choses qui ont un sens dans l'écriture, dans la langue que j'écris, mais quand on traduit, on ne peut pas suivre justement ce processus. Mais quand même, j'essaie toujours de contacter mes traducteurs et de parler. Mais certains, ils traduisent sans demander mon avis. Par exemple, pour les traducteurs qui m'ont demandé pour le Pierre de Patience, la seule chose que je leur demandais, c'était d'écouter un Lied de Schubert, qui c'était Lied. C'est parce que c'était avec ce morceau que j'écris, que j'avais écrit ce livre, Pierre de Patience, qui s'appelle Le Double.
Et vous avez comme ça une musique qui vous guide, en quelque sorte, pour chacun des textes.
Voilà, ouais. Dès que l'histoire est finie, ensuite, quand je travaille sur le texte, deuxième version, troisième version, etc., il faut que j'écoute de la musique.
Mais alors, comment vous choisissez en fonction du rythme que vous voulez ?
Je crois que c'est le texte et l'histoire et le personnage qui me guident. C'est ça. Par exemple, pour le dernier livre, le livre sur lequel je travaille en ce moment, j'avais du mal à trouver, jusqu'à ce que je suis tombé sur un morceau d'une musique indienne d'un grand chanteur, Shujaat Ali Khan, et justement qui a chanté Beshnavaz Naitune Kayat Mekonat, c'est-à-dire le poème de Rumi. Et j'ai dit voilà, c'est ça. Et ensuite, comme il y a plusieurs histoires, d'autres histoires aussi, commandées et autre chose, c'est Miles Davis qui est là, qui m'accompagne. Et aussi Bob Dylan, notamment son morceau que j'écoute en permanence. Par exemple, là, je n'écoute que ces trois morceaux en ce moment. Rien d'autre. C'est One More Cup of Coffee, donc de Bob Dylan. Donc, c'est l'histoire d'une séparation. Un poème magnifique, la chanson est extraordinaire, un rythme qui est très proche du rythme que j'utilise dans ce roman. Ouais.
Il y a quelque chose presque de mimétique alors entre le rythme de la musique et le rythme des phrases.
Ah oui, 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 oui. Ah oui, ça m'inspire énormément. Même ça m'aide à construire mes phrases. Les phrasés musicales donnent justement le rythme de mes phrases. Beaucoup. Et je demande à chaque fois au traducteur d'écouter telle musique. Et de trouver ce rythme dans leur propre langue. Certains peut-être travaillent, certains d'autres non, mais ensuite, c'est pas. ça devient compliqué.
Atik Raimi, est-ce que d'œuvre en œuvre, vous avez le sentiment de mieux saisir, de mieux appréhender et le rythme que vous voulez et ce travail de réécriture, ou vous avez la sensation au contraire que. Rien n'a bougé depuis le premier texte.
Je me mets à écrire, vraiment, j'ai l'impression que c'est la première fois que je commence à écrire. Et le moment aussi, je perds ce sentiment-là, ça devient très douloureux et même je suis capable de laisser de côté le livre pour certains temps. Si j'ai écrit « Père de patience » en français, je crois l'une des raisons un peu très déterminée, c'était ça. Quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire en persan. Je n'ai pas eu cette surprise-là. Je croyais que bon, ça y est, allez, maintenant, je peux écrire très facilement, mais non. J'ai vu que c'était une fausse piste et ça ne donnait rien. Et écrire en français d'un seul coup, ça m'a empêché de me lancer de cette manière. Et comme le français est une langue assez particulière, donc, et c'est vrai qu'avec cette écriture, j'ai eu l'impression que c'était la première fois que j'écrivais quelque chose. Oui.
Est-ce qu'il existe des textes, Atik Raimi, que vous avez écrits et que vous n'avez pas publiés ou qui sont restés justement dans un tiroir ?
Oui. Ah oui, oui, oui.
Et pourquoi ?
Je ne sais pas, parce que... Peut-être parce que ce sont des textes très écrits. Bien, voilà, il y a quelque chose qui ne m'échappe pas. Je ne sais pas. Et là, je ne peux pas vous répondre. Non, vraiment, je ne sais pas. En effet, pourquoi à un moment donné, il dit que non, ça, je ne veux pas publier. Oui, même ça m'est arrivé avec Père de patience. À un moment donné, quand bon, ça, c'était pour une autre raison. Quand le livre est fini, quand je l'ai envoyé à Paul, un soir, j'étais... en Normandie, dans un ami qui m'avait prêté son village justement pour inachever mon roman. Et c'est là d'un seul que j'ai eu une sorte de panique. J'avais appelé Paul pour lui demander, pour mon éditeur, pour lui dire que non, je ne voulais pas que ce livre soit publié.
Et une panique, c'est
panique,
très fort.
Oui, 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 j'ai ça souvent. Mais ce n'est pas grave.
Atik Raimi, est-ce que vous avez écrit à propos des calimorphies que donc vous avez fait une exposition avec ces calimorphies-là et donc elles vous exposaient impudiquement aux yeux du public, donc c'est très fort ça aussi, mais vous éprouvez moins ce sentiment avec vos textes ou pas?
Ah oui, là encore je ne me rendais pas du compte de ça. D'abord, je n'avais jamais pensé à exposer mes calimorphies. Oui, mais mes calimorphies, c'était quelque chose de très intime. Des mots, mes errances nocturnes dans mon bureau, dans ma tête, etc. Donc, c'était des traits et des passages très érotiques. Je ne dessinais que le corps des femmes, etc. Donc... Non, je ne voulais pas du tout. Mais une galériste qui voulait exposer mes photos est venue dans mon atelier. À ce moment-là, j'étais enfermé dans un atelier pour écrire le livre sur l'exil. Et c'est là, quand elle est venue, la galériste, elle a vu partout mes papiers, mes calimorphies. C'est quoi ça? Des trucs bizarres, des traits assez particuliers. C'est vrai que très minimaliste, il n'y avait que 3-4 traits, pas plus. Je dis... Je ne sais pas, c'est une sorte de calimorphie, ce que j'appelle calimorphie. Je prends un mot, à partir de ce mot, je le dépose sur le corps de quelqu'un qui est dans un état, dans une situation donnée. Et ensuite, comme l'écriture, j'enlève des traits pour arriver justement à 2-3 traits précis qui évoquent ça. Il y a des... C'est vrai, il y a des tableaux qu'il n'y a qu'un seul trait, mais ensuite, avec un peu de recul, on voit tout de suite le corps, etc. Et ce que je dis, c'est que parce que la forme est dans ce vide, c'est pas. Nous, on ne crée pas de forme. La forme est toujours là. Il faut révéler cette forme-là. Et à ce moment-là, voilà, ce que je révèle, mon calam, c'est révéler encore. Donc, c'était ça, tout de suite, et dire, ben, c'est ça que je veux exposer. Mais elle dit, et ensuite, c'est parti comme ça. Et ça avait un lien extraordinaire avec mon écriture sur l'exil. Je n'arrivais pas à achever ce livre sur l'exil. Et c'est cette écriture, ce calligraphie aussi, c'est des corps inachevés, des formes inachevées, mais qui vous guident vers quelque chose, vers une sorte de... Voilà. Et c'est ça qui m'a emporté à ce moment-là. Et un lien très étrange s'est créé entre cette méditation sur l'exil, sur mon exil, et ces dessins. Et ensuite, je l'ai intégré justement dans mon livre, bien sûr.
Atik Raimi, est-ce que... je ne sais pas si la postérité est importante pour vous, c'est une question, mais en tout cas, la transmission l'est, puisque vous animez des ateliers d'écriture en Afghanistan.
Oui, c'est la moindre des choses qu'on arrive à partager avec des gens, notamment dans un pays comme Afghanistan, avec tant de violence, avec une histoire si atroce, une présence catastrophique, malheureusement. Et je crois par donner le moyen justement à ces Afghans de s'exprimer. Je crois que... Vous voyez, Dostoïevski disait une chose extraordinaire, il dit, voilà, si les enfants se battent, si les enfants crient, pleurent, c'est parce qu'ils n'ont pas de mots. Et c'est très exact. C'est très, très exact. Quand on a le mot, donc, on s'exprime, on ne tombe pas dans la violence. Et l'Afghanistan, après la guerre afghano-soviétique, n'a pas eu le temps de faire le deuil d'un million de morts. On est tombé dans la vengeance. Toujours, si on ne fait pas le deuil, on tombe dans la vengeance. C'est vu dans tout, partout un peu. Et qu'est-ce que c'est, alors, du coup, le deuil? Le deuil, c'est justement ce partage à travers les mots, la souffrance, les choses, à travers le procès des criminels. Et c'est ça qui a manqué en Afghanistan, justement. Et avec des amis, écrivains, on essaie toujours de donner ce moyen-là aux jeunes Afghans de s'exprimer, d'écrire, pour faire le deuil.
Merci beaucoup à Atik Raimi et merci à tous.
C'était la masterclass d'Atik Raimi avec Delphine Schaum. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Guergaillant.